7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les jeunes, la sexualité et Internet. Au-delà des clichés sur la pornographie qui suscitent beaucoup d'inquiétudes chez les adultes et qui font réellement, que font réellement les jeunes sur Internet en matière de sexualité, c'est la question que tout le monde se pose. Et quelles conséquences sur la vie sexuelle ensuite? Les pouvoirs publics tentent, comme en France, de limiter les accès aux sites pornographiques pour les mineurs, mais comment par ailleurs proposer des informations aux jeunes pour répondre à toutes les questions qu'ils se posent? Et ils se posent énormément de questions, ça n'a pas changé au fil des générations, notamment sur la contraception aussi, mais sur une sexualité heureuse. Et quant à vous les voisins et les voisines, quelle est la place d'Internet dans l'éducation à la sexualité? Dans des sociétés où le sujet est parfois tabou, comment combler les lacunes éducatives, assurer le bien-être, la sécurité des jeunes? Contactez-nous dès maintenant, n'oubliez pas, c'est le nouveau compte WhatsApp, il faut le rentrer dans votre téléphone, 33 7 64 45 51 41, je vous le répète, 33 7 64 45 51 41. Allez, je vous présente nos invités qui sont dans le studio et qui ont fait tomber le masque pour participer à l'émission, ça nous fait du bien. Yael Msalem Mangui, bonjour Yael.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'INJEP. L'INJEP, c'est l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Et vous avez mené une enquête avec Arthur Veuatou, en tant que sociologue, auprès des jeunes en France. Ça s'appelle « Les jeunes, la sexualité et Internet » aux éditions François Bourin. Thomas Romer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Open, c'est l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, et évidemment dans cet observatoire, les questions de sexualité sont importantes. Et vous êtes aussi expert au CSA sur les questions de jeunesse. Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je vous rappelle le numéro de WhatsApp pour participer à l'émission Dialoguer avec nos invités, 33 7 64 45 51 41. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, Instagram, c'est le compte 7 milliards RFI. Bourgeois au Tchad, 28 ans, nous poste ce message. Dans ma langue, personne ne m'a appris le mot sexe. C'est à l'âge de 6 ans, à l'école, que j'ai appris le mot. Et en grandissant, je me suis informée sur Internet. J'ai appris en dehors de la famille et bien évidemment sur Internet. Et beaucoup avec Priorité Santé, la radio, Catherine Solano, médecin, sexologue. Voilà, donc forcément, c'est du technique et c'est très informatif. Et vous continuez de le faire et vous avez raison. Je rappelle le numéro WhatsApp 33 7 64 45 51. 41.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
Ouh, il faut que je vous refasse une story d'ailleurs, comment bien sucer, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me le demandent. Et franchement, les garçons qui m'insultent, je ne comprends pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'éduque vos meufs à mieux vous sucer, à mieux vous baiser. Vous devriez me remercier.
Coucou le cul.
Comment ça marche?
Aujourd'hui, c'est... On se croit obligé d'apprendre aux gens comment s'aimer. On veut leur faire croire que l'amour, c'est compliqué.
Entrez, entrez.
Oh, Jim, tu es là. Mon grand, il y a bien longtemps que nous n'avons pas eu une conversation entre père et fils. Je t'ai apporté des magazines.
Oui.
Alors, eux, ils ont choisi de centrer leurs photos sur la région pubienne, tu vois?
Hein?
Comme tu le vois, c'est très détaillé, oui. Et on dirait presque une sorte de plante tropicale ou de végétation sous-marine, une algue. Est-ce que tu sais ce que c'est que le clitoris?
Non, c'est pas...
Excuse-moi, oui, c'est vrai que c'est tout, j'oubliais. Monsieur est un expert, tu as tout vu.
Écoute, on a des cours d'éducation sexuelle, tu sais, alors c'est un expert de parler du clitoris.
Écoute,
je m'excuse, d'accord?
Non, c'est moi qui m'excuse, je m'excuse.
Excuse-moi.
Je m'excuse. Bon, ben, voilà, c'est fait. Je te vois au dîner.
Oui, c'est ça, tout à l'heure.
Certains auront peut-être reconnu un extrait du film American Pie qui déjà a plus de 20 ans. En tout cas, il y a un monde, hein, il y a Yael Msalem Mangui et Thomas Romer, entre ce qui se passe sur Internet et certaines discussions familiales, on va dire, à la papa, à la maison, un peu embarrassées, non?
Bah, la question est de savoir ces discussions ont lieu et puis doivent-elles avoir lieu en fait. C'est une question que je me pose éternellement. Quelle est la place des adultes dans cet accompagnement sur un sujet qui est un petit peu particulier et qui nous touche au plus profond de notre intimité toutes et tous. Donc personnellement, j'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que en allant beaucoup sur le terrain, en discutant avec des jeunes, mais aussi beaucoup d'adultes. La situation et en parler, c'est toujours aussi compliqué, peut-être même un peu plus qu'avant. Et je remarque surtout que les adultes ont toujours ces a priori et se font une image et tout un monde parfois un peu caricatural de la situation, même s'il est vrai que Internet, et je suppose qu'on en parlera beaucoup, a changé pas mal la donne.
Ouais. Mais pourquoi un peu plus compliqué qu'avant d'en parler du côté des adultes? Parce que sur Internet, alors vraiment, on trouve tout, absolument tout. Et dans la vraie vie, finalement,
je ne sais pas si c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'hier d'en parler. Ce qu'on voit bien, en fait, ce qui persiste dans les enquêtes, c'est que quand on demande aux adolescents de citer auprès de qui tu pourrais discuter de la sexualité, ils citent les parents en disant « mais j'en parlerai jamais à mes parents ». Quand on va interroger les parents, ils disent « ça devrait être moi qui devrais leur parler de la sexualité, mais je veux surtout pas le faire ». Et donc, c'est bien là où il y a de la place pour les autres, les copains, les copines, les profs, les éducateurs, les animatrices, et ainsi de suite. Et puis aussi, il y a de la place pour Internet. Parce que finalement, entre parents et enfants, personne ne veut exposer sa propre sexualité auprès de l'autre. Personne ne veut avoir une question qui serait pas piège, mais qui serait potentiellement piège de devoir dévoiler
une partie de son intimité.
Voilà, son intimité, alors que souvent les questions sont beaucoup plus générales que « quelle est la position sexuelle que vous avez faite pour me fabriquer quand on est un enfant ?» Personne ne veut le savoir.
Thomas Romer, cet été, dans le cadre de la loi sur les violences conjugales, un amendement est passé un peu, même totalement inaperçu. On est toujours en plein Covid-19 en France, et qui cherche à réglementer, ou en tout cas à limiter l'accès à la pornographie pour les mineurs.
Tout à fait, nous c'est un combat qu'on mène à l'Open depuis que l'association existe et qui nous avait d'ailleurs amené à déposer plainte contre le premier site pornographique mondial en novembre 2018, Pornhub, pour non-respect des lois de notre pays. Et la plupart des pays ont ce type de loi pour protéger les mineurs de l'accès à ces contenus qui sont, il est vrai maintenant, et c'est la nouveauté d'Internet, un petit peu en libre accès, en quelques clics dans la poche. Et en fait, plus que la question de l'accès, ce qui questionne et interroge, c'est le fait que ça se passe souvent loin du regard d'un adulte et que ces images ne sont jamais déconstruites et peuvent créer parfois de nouvelles normes. Et on sait qu'on est quand même dans un monde de fiction, la pornographie en fait partie. Et personnellement, c'est pas, sans vouloir tenir un discours moralisateur, ce qu'on y voit sur ces sites, c'est pas vraiment quelque chose que l'on peut souhaiter pour démarrer sa sexualité.
Ça veut dire demande un peu de maturité. Ça veut dire que des sites porno pourront être bloqués ou déréférencés à la demande
de manière temporaire.
À la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ouais. Le CSA, s'ils ne mettent pas en place un contrôle strict de l'âge de leurs visiteurs.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, c'est. On vérifie simplement. Est-ce que vous avez bien plus de 18 ans?
En fait, c'est juste un petit panneau qui s'appelle disclaimer.
On clique oui.
On dit oui. Et il y a même certains sites sur lesquels on ne peut pas dire non. Du coup, c'est plus facile. Et on rentre. Ces sites ont l'impression de respecter la loi française en mettant ce panneau. Et la loi qui vient d'être votée au Parlement français dit juste « Eh ben non, maintenant ça c'est fini. Vous allez devoir trouver un autre système » qui va permettre, et c'est à vous de le créer le système, qui va permettre de vous assurer que les gens qui vont sur vos sites sont bien des mineurs.
Alors, le majeurs. Numéro de carte bancaire notamment, parce que ça devient plus compliqué pour un mineur qui n'est pas dans son appartement, qui ne peut pas avoir accès à la carte bancaire de ses parents, de trouver une carte bancaire. Ça, c'est quelque chose qui est déjà utilisé notamment forcément pour les sites payants.
Oui, vous avez certains sites comme, on n'est pas là pour faire de la publicité, mais par exemple Dorcel, qui est un gros acteur de la pornographie en Europe et dans le monde, qui depuis très longtemps propose uniquement des accès payants. La problématique de ces sites, elle est liée à leur positionnement économique. Si vous voulez, ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est que ces sites, comment gagnent-ils de l'argent? Ils gagnent de l'argent en générant du trafic. D'où le fait aussi qu'on assiste depuis un certain nombre d'années à une modification des contenus sur ces sites, puisque l'objectif, c'est d'attirer du monde. Et donc, on a quand même une forme de violence dans ces contenus qu'on ne voyait pas à l'époque de ce qu'on appelle le porno à la papa dans les films des années 80 ou 70. Alors, et donc, on a une modification.
La France, donc, cherche à limiter l'accès au porno pour les mineurs, donc en restreignant les entreprises du porno. Le Royaume-Uni avait un projet similaire. Ça n'a pas été mis en application. Pourquoi ça n'a pas marché?
Oh, c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails. En résumé, si vous voulez, ces sites brassent plusieurs centaines de millions, voire milliards de dollars de chiffre d'affaires. On a, comme c'est des sites qui restent très opaques avec des sociétés qui sont hébergées dans des paradis fiscaux, on ne se connaît même pas le nom des dirigeants, etc. Ces gens-là avaient mis en place une opération de lobbying auprès du gouvernement anglais et qui a porté ses fruits et qui est devenu un mini-scandale en Angleterre qui a fait que ça a complètement capoté. Outre le fait que les solutions techniques qui étaient proposées, personnellement, me faisaient un petit peu rigoler. Ça consistait à aller acheter un passe porno chez un buraliste. Déjà, quand on voit la tête des gens qui demandent une boîte de préservatifs dans une pharmacie, je pense qu'aller demander, en même temps qu'on achète son journal, un passe porno, il faut arrêter de prendre les gens pour des andouilles.
Oui, donc c'était voué à l'échec selon vous. Le marché des enfants pour les sites pornographiques, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pour que les entreprises mettent aussi peu d'ardeur, d'efforts à limiter l'accès des images pornographiques auprès des mineurs. Ce marché du mineur, il est si important que cela pour ces sites ?
On ne peut pas l'évaluer, puisque une fois encore, ces sites ne donnent pas de chiffres. En revanche, ici même, nous avions évoqué avec une invitée qui s'appelle Ovidie, lorsqu'elle avait fait son film Pornocratie, on était venu en parler ici.
Une ancienne actrice de film X, et qui est très impliquée maintenant dans le combat contre
avec,
le...
Avec laquelle on travaille beaucoup. Dans son film, elle interviewe le fondateur de YouPorn, et ce dernier lui avait dit hors caméra que au début de YouPorn, il avait mis un disclaimer, donc ce fameux petit panneau interdit aux mineurs, et immédiatement en le mettant, il avait vu une chute d'audience considérable, donc il l'a enlevé. Et aux États-Unis, ces sites, alors pas en France, mais aux États-Unis, ils ciblent clairement les jeunes, et voire même se revendiquent dans des communiqués de presse comme étant le principal vecteur d'éducation sexuelle et affective des jeunes Américains.
Alors, on ne va pas parler non plus que des mineurs, parce que quand on parle des jeunes, il y a aussi de jeunes adultes. Hein, ça va au-delà de 18 ans, notamment pour vos enquêtes, Yael.
Non, mais c'est surtout pour revenir un peu sur ce que vous disiez, quand on parle des mineurs, on ne parle pas forcément des enfants, il faut bien être clair, on ne parle pas d'enfants qui ont 5, 7, 8 ans. Quand on parle de mineurs et de pornographie, c'est essentiellement, on vise des adolescents, on vise des jeunes qui sont en train d'entrer dans la sexualité. Enfin, vraiment, c'est important parce que mineurs en France, c'est moins de 18 ans. Mais en fait, la frange qui va être ciblée, c'est les 15-18 essentiellement, voire un peu plus jeunes. Mais on va pas, enfin, c'est pas pour cibler des 3 ans, 5 ans. Enfin,
bien évidemment. Mais votre enquête, Yael Amsalem-Mengi, a cherché à sortir du débat sur les images porno. On a commencé à parler de la pornographie parce que c'est vrai que c'est ce qui arrive tout de suite dans la discussion sur Internet et l'éducation à la sexualité. On a l'impression qu'il n'y a que la pornographie. Comment vous avez travaillé, avec combien de jeunes, comment vous les avez interrogés et quelle était la place de cette polémique centrale?
Alors en fait, avec Arthur Vuatou et le soutien de Modeste Dagan aussi, qui était stagiaire sur l'enquête, on a posé toutes ces questions sur la sexualité et Internet, parce que c'est des choses qui revenaient beaucoup des enquêtes antérieures qu'on avait pu faire, à la fois du côté des jeunes, dans leur pratique, et à la fois du côté des professionnels et ou des parents, sur ben, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas et on voudrait, et en fait c'est de pire en pire, et puis Internet, et puis voilà. Et en fait, on est parti d'abord en faisant un questionnaire auprès de 1500 jeunes, âgés de 18 à 30 ans, pour revenir en fait sur la période adolescente, pour avoir un peu leur discours sur ce qui s'est passé au moment où ils étaient adolescents. Donc quand ils ont 18 ans, c'était il n'y a vraiment pas longtemps. Quand ils en ont 30, l'intérêt, c'était aussi de voir ben, quelles sont les évolutions en fait, d'usage par rapport à quand ils sont entrés dans la sexualité, et puis aujourd'hui, quand ils sont, on va dire, plus installés dans une vie relationnelle et où qu'ils ont eu plus d'expérience que ce qu'ils avaient à 15, 16, 17 ans. Donc comme ça, on a fait un questionnaire auprès de 1500 jeunes au cours de l'hiver 2017.
D'origines très diverses.
Hein. Alors voilà, ils viennent de tout le territoire de métropole. Et puis, ils viennent de milieux sociaux très différents. Il y a des filles et des garçons. Il y en a qui sont extrêmement diplômés dans des grandes écoles parisiennes. D'autres qui ne sont pas diplômés, qui sont déjà en emploi à 17-18 ans. D'autres qui sont en recherche d'emploi. D'autres qui vivent en internat. D'autres qui vivent chez leurs parents. D'autres qui vivent seuls. D'autres qui vivent en colocation. Enfin voilà, on a comme ça énormément de témoignages de jeunes à partir de questionnaires fermés. Donc pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe et compter. Et puis après qu'on ait compté, parce que c'est un peu une passion de sociologue, on a voulu savoir aussi, mais qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'il y a X% de jeunes qui vont sur Internet en lien avec leur sexualité, Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce que vraiment finement, pour essayer de comprendre ce qui se joue, on est parti leur poser des questions. Alors on n'a pas fait des entretiens avec 1500 jeunes, sinon on y serait encore. Et puis c'est pas l'objectif de la sociologie, mais on a interrogé une soixantaine de jeunes. Plus on a fait des entretiens en groupe avec d'autres jeunes qui vivent aussi pareil, hein, tous en France, qui viennent de milieux sociaux différents. Il y a des filles, il y a des garçons. Et on a fait des entretiens qui durent entre 2 et 3 heures individuellement, anonymement. Donc on ne dévoilera jamais leurs prénoms. Dans l'ouvrage, on a choisi des prénoms fictifs, des lieux fictifs où ils habitent, pour garantir vraiment toute la confidentialité de ce qu'ils nous ont raconté. Et puis, comme ça, on s'est rendu compte que quand on leur disait sexualité à Internet, ils sont vachement moins obtus que les adultes. Mmh. Les adultes, quand on leur dit jeunes, sexe et Internet, tout le monde pense pornographie.
Ils sont assez bavards hein, dans le livre quand même.
Il y a plein de trucs à raconter. Notamment que jeunes, sexe et Internet, ça ne s'arrête pas à pornographie. Mmh. Et en fait, pornographie, ça ne fait pas partie de la première occurrence. Quand on leur parle de sexualité et d'Internet, il y a beaucoup la question de « Ah oui, j'ai cherché de l'information ». Oui, parce qu'Internet,
donc,
c'est aussi un vecteur d'information.
Ils vont taper un mot-clé, par exemple.
Alors, l'avantage de la génération, on va dire, jeune aujourd'hui, c'est que toutes les questions ont déjà été posées sur les grands moteurs de recherche. Oui. Contrairement à ceux qui sont nés avec le développement d'Internet.
Le mot le plus tapé pour les garçons, pour les filles?
Alors ça, on n'a pas fait le plus, parce que c'est compliqué, puis c'était pas forcément pertinent. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils y vont, les filles et les garçons, pour des raisons extrêmement diverses, que ça touche la contraception, la grossesse, les menstruations, donc les règles. Alors avec les questions de retard, de fréquence, d'arrêt, de douleur, mais aussi de pouvoir avoir des rapports sexuels pendant ou pas. Est-ce qu'il y a un risque de grossesse? Est-ce qu'il y a un risque d'IST? Mais aussi, est-ce que c'est crade? Et qu'est-ce qui ferait tout ça? Ben, tout ça, c'est des questions qui vont être posées sur Internet. Qui vont être posées sur Internet, qui vont être posées aussi parfois sur Internet avec un copain ou une copine à côté. Hein. C'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on est tout seul non plus. Donc voilà, après il y a des questions sur les infections sexuellement transmissibles, parce que ben, c'est très compliqué de comprendre un peu ce qui se passe et qu'est-ce qui est réellement transmissible ou pas. Le Covid est-il une infection sexuellement transmissible? Et puis ben, après, il y a toutes les questions autour de l'orientation sexuelle, donc homosexualité, transidentité, pour soi ou pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on peut se poser des questions pour un pote et aller sur Internet, parce que ben, ça ne se fait pas de demander au pote ou on ne le sent pas, mais quand même, ou des questions pour soi. Et en fait, c'est là où on a vu que sexualité, c'était beaucoup plus large pour les jeunes que pour les adultes, que ça embrassait vraiment plus l'ensemble de la santé sexuelle que uniquement la sexualité pratico-pratique, et que c'était souvent la recherche de bien-être en fait derrière et de bien vivre sa sexualité qui était recherchée pour soi et pour ses potes.
Voire de conformité aussi, parce que c'est un âge aussi, on se demande si on est bien comme les autres, Thomas Romer. En tout cas, il y a une explosion de l'offre sexuelle sur Internet qui ne s'apparente pas forcément à de la pornographie. Il peut y avoir de l'éducation, des explications médicales, techniques, etc., comme l'expliquait Yaël. Et puis, il y a quand même aussi une multitude de propositions, on va dire, ludiques, d'applications. Est-ce qu'on peut essayer d'y voir un peu plus clair là-dedans?
Alors, juste rebondir sur ce que vient de dire Yael, en effet, je pense que les questionnements, ils sont divers et multiples. Néanmoins, dans ce qu'elle me dit, moi, il y a quand même des choses qui m'attristent, parce que faire des recherches sur la sexualité, quand on démarre sa sexualité uniquement à travers une question sanitaire ou hygiéniste, moi, personnellement, je trouve ça un peu regrettable, et c'est assez emblématique, je trouve, de cet échec de l'éducation sexuelle et affective qu'on a, en tout cas dans notre pays, qu'on a souvent cantonné qu'à ça. Alors,
c'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai pas dit qu'ils avaient des recherches hygiénistes. Ils vont rechercher aussi pour avoir du bien-être et du plaisir.
Oui, mais enfin, dans la manière dont tu as présenté les choses, c'est vrai qu'il y avait quand même des mots sur contraception, grossesse, règles. Et c'est vrai que pour moi, ça reflète...
sérieux, finalement.
Non, mais c'est surtout que ça reflète la réalité de ce qui se passe à l'école, dans l'éducation sexuelle. C'est-à-dire que on a vraiment, depuis 30 ans en France, une approche sur ces sujets qui n'est pas liée à des choses comme l'orientation sexuelle, qui pourrait être beaucoup plus pertinent, me semble-t-il, à aborder. En tout cas, qui questionne beaucoup d'ados également. Mais justement, sur comment on évite, sur la contraception, sur comment éviter d'attraper les maladies sexuellement transmissibles, etc. Et je trouve ça très enfermant et très, quelque part, angoissant pour ces jeunes d'aborder les choses par ce prisme-là.
Je parlais de conformité tout à l'heure, au-delà des questions médicales. Par exemple, Junior là, vient de poster un message de Yaoundé. Il a 19 ans, il est étudiant. Et il nous dit, sur Internet, je cherche à savoir comment fonctionne mon corps. Donc là, c'est pas vraiment médical. Par exemple, si je me pose une question sur la couleur de mon sperme, des sites me donnent des réponses qui me rassurent. Thomas Romer.
Oui, mais alors, on en revient à votre question. En effet, la, si vous voulez, la problématique d'Internet, c'est, elle n'est pas propre à ce sujet-là. C'est, on voit bien en ce moment avec ce qui se passe sur le virus qui traverse toutes les sociétés, toute la planète, c'est de savoir identifier et repérer des informations qui sont fiables. Et ça, ça fait partie de l'éducation aux médias. C'est un boulot qui doit être porté par l'école, mais par l'ensemble des adultes qui accompagnent les adolescents, et par les ados aussi, qui peuvent rentrer dans un auto-apprentissage. Mais sur Internet, en effet, on trouve des choses formidables. Et moi, je suis le premier à défendre des comptes Internet ou Instagram qui sont régulièrement fermés par les plateformes américaines, mais comme je m'emballe Clito ou Tajoui, qui sont des comptes en plus un peu féministes, et ça fait du bien, ça apporte un peu d'air frais, et qui peuvent être des sources d'informations formidables pour les adolescents et des points de référence hyper intéressants, et en plus avec le regard éloigné des adultes, donc c'est génial. Mais en même temps, le souci, c'est qu'on peut arriver sur des sites qui vont vous raconter n'importe quoi, et notre ami Junior, il peut aussi tomber sur un site qui va lui dire que, bah tiens, le sperme, s'il n'est pas de cette couleur-là, c'est que forcément, il a chopé je ne sais pas quoi. Ouais, et
crée une angoisse chez les jeunes.
Et donc,
mais ça, ce n'est pas spécifique aux jeunes de ne pas savoir faire le tri dans les informations sur Internet.
Non,
juste qu'on soit bien d'accord, les adultes,
d'accord.
Ils n'y arrivent pas mieux, et les jeunes ont plus d'esprit critique parfois parce qu'ils ont un usage plus fréquent.
Et ce n'est pas spécifique à la sexualité.
Non.
Des pratiques comme pour les jeunes qui sont en couple, puisque vous avez aussi interroger des jeunes qui vivent une histoire de couple amoureuse, les pratiques comme de s'envoyer des nudes, des photos de son sexe par exemple, c'est une pratique qui est devenue courante pour les jeunes générations, qui est directement liée à l'offre internet.
Alors c'est pas spécifique aux jeunes non plus, hein. Les adultes passent beaucoup de temps à s'envoyer
Benjamin
des photos.
Griveaux,
alors voilà, par exemple, mais il y en a plein d'autres qu'on connaît pas. Non, c'est pas du tout spécifique aux jeunes que de s'envoyer des messages érotiques, des sextos, de s'envoyer des photos de soi nues. Ça a rien de spécifique aux jeunes. Mais les jeunes aussi s'envoient des photos nues. Ce qu'on a vu dans l'enquête, c'est qu'il y avait...
Via des applications d'ailleurs qui sont destinées à ça, hein.
Oh, pas forcément,
parfois,
non. Tous les trois quarts du temps. Alors, les jeunes, non. Les jeunes, ils passent essentiellement par des... Bah, vous avez WhatsApp, donc bah, ici, dans l'émission, ça passe beaucoup par WhatsApp.
Certains dans votre livre citent une application, je ne sais plus laquelle,
oui, mais
qui
c'est
est
pas...
davantage d'ailleurs cryptée, etc. Parce qu'il y a quand même aussi la question du cyberharcèlement, de ces jeunes dont la photo va être diffusée au-delà de la relation amoureuse à un plus grand groupe et qui crée des ravages.
Voilà, mais en fait, ce qui se passe, c'est que surtout, nous, ce qui était intéressant dans l'enquête de voir, c'était de voir comment, en fait, les garçons insistent beaucoup pour que les filles envoient des photos d'elles, et pour prouver l'intensité de la relation, pour prouver que elles sont vraiment dans le couple, qu'elles font confiance, que tu comprends, c'est normal, tu me manques. Et en fait, derrière ce « tu me manques », on a pu retrouver ce qu'on entend beaucoup chez les adultes, et qui n'est pas spécialement français, de penser que les hommes ont des besoins sexuels à assouvir et que les femmes ont l'aspect relationnel et affectif à développer. Mais que du coup, derrière ça, il y a toutes les inégalités entre les femmes et les hommes qui se justifient. Derrière cette binarité où les hommes auraient des besoins sexuels à assouvir. Les jeunes pensent ça, mais les jeunes pensent ça au même titre que leurs parents et que leurs grands-parents. Et la question, elle est là, elle est vraiment sur les inégalités, les rapports de genre inégalitaires qu'on retrouve chez les jeunes et dans leurs propos, et donc qui vont faire que les garçons s'autorisent sans difficulté à demander des photos aux filles. Et à l'inverse, quand on dit aux garçons « Mais toi, t'as déjà envoyé une photo de toi à ta copine, par exemple ?»« Ah non, mais ça va pas, j'enverrai jamais une photo comme ça. » Et donc, on voit bien que là, il y a une question de...
Plus conservateur qu'on ne pourrait l'imaginer, parfois. Donc.
Non, ils font plus attention, les garçons. Et les jeunes, c'est beaucoup plus compliqué pour une génération toute seule de remettre en question tous les rapports de genre qui établissent toutes les inégalités entre les femmes et les hommes dans la société.
Alors, on a ouvert la boîte de la sexualité chez les jeunes via leurs pratiques sur Internet, leurs usages sur Internet. On en discute avec vous, Yael Mselem-Mingui et Thomas Romer. Un message d'Alader qui est à Gao, au Mali. Il nous dit « Les recherches des jeunes sur Internet concernent surtout la pornographie et la contraception. » C'est ce qu'il nous dit, puisqu'en Afrique, encore les tabous sur ces sujets persistent tant dans la famille, dans la société, que dans les systèmes scolaires. Et puis il y a Watt aussi qui est à Richard Toll dans le nord du Sénégal. Il évoque la pudeur des parents pour éduquer leurs enfants à la vie sexuelle. On en a parlé et ça n'est pas que sur le continent africain. Bayaki à Lomé au Togo nous dit en Afrique, les jeunes s'éduquent eux-mêmes grâce aux réseaux sociaux. C'est pour améliorer leurs relations sexuelles face aux exigences de la partenaire ou du partenaire que l'on va donc sur Internet. Ça, c'est revenu assez fréquemment. On va donner la parole dans quelques instants à Abdoulaye au Mali et à Franck au Cameroun. Ça serait formidable, les voisines, si vous aussi vous nous appeliez, si vous aussi vous nous postiez des messages, parce que la sexualité, ça ne concerne pas que les hommes. Je vous redonne le numéro de WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Allez, on attend vos appels.
14 ans, limite 15, ce soir elle a de grands projets. 14 ans, mais très bientôt 15. Ce soir, elle abordera le grand sujet. Comme elle a une grande sœur, elle sait qu'avec l'âge viennent les excès. Et prendre de l'âge à 14 piges, c'est comme un gage de qualité. Elle s'était coiffée 17 ans, sapée genre meuf qui dit 7 ans, maquillée, je te raconte pas comment. Pendant que de l'autre côté de la scène, un type collégien, 14 ans comme elle, vient de partir la rejoindre. Quelques mois qui se pratiquent, qui se connaissent, par milliers, ils s'en laissent des messages trempés dans le sucre. Pratique ce numéro pour déverser l'amour. Quand des flots d'hormones t'inondent et en un quart de tour, brûlant, comique parfois, quand ils s'enflamment pour quelques heures, quand pour quelqu'un que tu connais pas, tu donnerais ta mère et ta sœur l'amour adolescent, adossé dans les sens, virevoltant, né dans le champ des innocences et dans le sang. C'est toujours dans mes pensées, c'est tellement beau, puissant, si tu le sais pas, elle te rappellera que Roméo avait 16 ans. Alors le voilà dévalant l'avenue du 11 novembre. La voilà l'attendant, docile et tendre. Elle aime qu'il l'aime, il aime grandir. Il aime qu'elle vienne de loin juste pour le voir sourire. Qu'elle dit, elle a déjà ses mains qui traînent presque au-dessus des fesses. Il tremble comme une feuille à chaque caresse. C'est pas le stress, non, c'est pas l'excitation, c'est juste un test. Allez, allez, vas-y mon garçon, mais rien n'y fait, rien ne s'estompe. Un peu plus tard, pour réduire les effets, il se cachera pour faire des pompes. On lui a tellement dit, faut pas forcer la main des filles, il faut les protéger. Qu'à l'heure de faire l'amour, elle réalise qu'en fait, c'est lui l'objet. Alors toujours bouche contre bouche, touche contre coucher. Elle se débrouille pour que ses yeux sur ses seins viennent loucher. Elle retire son soutien-gorge après qu'il ait tout tenté. Tout entier dévoué à une seule cause. Il regrettera le temps des toges, parce que là c'est compliqué de retirer à une seule main ce genre de choses. Les chaussettes aussi, c'est vrai, c'est le passage délicat, il y arrive qu'avec les pieds. Mais lui, il n'y arrive pas, c'est l'aventure et c'est laborieux. Mais c'est le temps et sa cambrure qu'ils tiennent dans leur petit jeu. Maintenant qu'on en est là, sous les draps, le reste n'est qu'animal. Elle sera courageuse, il fera tout pour qu'elle n'ait pas mal. Il a les yeux plus ouverts que jamais. Pourtant c'est le noir complet, deux fois en dessous, trois fois au-dessus. Elle pense à sa sœur qui l'a fait. Elle se dit qu'elle, ça y est. Elle constate qu'il ne tremble plus.
Merci à Romain Dubrac d'avoir programmé cette très belle chanson, Ben Mazué, 14 ans. Vous écoutez 7 milliards de voisins, vous êtes bien sur RFI, nous sommes en direct avec nos invités, Yaël Amselem Mingui, qui publie cette enquête avec l'autre sociologue Arthur Voitou, les jeunes, la sexualité et Internet. Donc que font vraiment les jeunes quand ils vont sur Internet pour se renseigner sur la sexualité, découvrir la sexualité? Et puis on en discute aussi avec vous, Thomas Romer, vous êtes président de l'Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Et bien sûr, on vous donne la parole, les voisins, les voisines, quel que soit votre âge, hein, d'ailleurs. 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec Abdoulaye qui nous appelle de Tombouctou, dans le nord du Mali. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour. Bonjour.
Abdoulaye, vous avez 27 ans, c'est ça?
Exactement, oui.
Ouais. Et alors, comment vous avez découvert la sexualité via Internet ou pas tellement, finalement?
Bon, en vrai, c'est sur Internet que j'ai fait beaucoup de découvertes sur la sexualité. Parce qu'à l'ado, on n'avait pas le courage d'en parler avec les parents, surtout avec les aînés. Donc, on dit que nous, on passe sur Internet et chercher comment... faire l'amour avec ma copine, les positions, comment stimuler l'orgasme, tout, voilà.
C'est-à-dire que la question centrale pour vous, c'était de réussir une relation sexuelle avec votre partenaire.
Exactement, parce que j'ai jamais voulu dire que ma copine ne soit pas satisfaite quand on fait l'amour, que je vais la déçois au lit. Donc du coup, j'avais du mal à assumer cette responsabilité. Donc du coup, je passe sur Internet voir comment je peux m'améliorer. Et la sexualité en fait.
Comment vous pouvez vous améliorer sur Internet? Mais en regardant quoi alors exactement?
En regardant, bon, il y a des textes qui sont écrits, il y a aussi souvent les pornographies que je regarde, franchement. Et voilà, du coup, ça m'a beaucoup servi dans mes relations amoureuses, franchement.
La pornographie, quel regard vous avez par rapport à ça?
Bon, là, deux, franchement, ça m'excitait, ça me donnait envie, et voilà, je sais pas comment te dire, ça me forme en fait, c'est comme si c'était une auto-formation que je me faisais, et quand maintenant j'ai une vraie cette vie en réalité, ou bien cette rapport sexuel avec ma copine, donc du coup là, je peux plus me recaler quoi, donc je fonce.
C'est ça. Et vous dites c'est grâce à Internet. Est-ce que vous regardez parfois de la pornographie avec votre copine Abdoulaye?
En fait, ça je l'ai jamais fait.
Vous l'avez jamais fait? Pourquoi?
J'avais honte comme ça et puis voilà.
C'est-à-dire que vous en avez pas parlé avec votre copine? Vous lui avez pas dit que vous aviez appris beaucoup sur Internet, notamment avec la pornographie, parce que vous avez parlé aussi de textes écrits, hein, pas que de vidéos.
Oui, ça dit.
Vous ne lui avez pas dit ça?
Non, je ne lui ai jamais parlé de tout ça.
Ouais. Vous lui avez dit, j'ai le talent inné, quoi.
Ouais, exactement. C'est je ne voulais pas du tout qu'elle me dise que je suis nul ou lisse, je ne sais pas faire l'amour, je ne sais pas faire atteindre l'organe. Voilà, c'était ça mes priorités. Donc du coup, j'ai foncé, j'ai cherché, j'ai trouvé. Et donc voilà, aujourd'hui, grâce à Internet maintenant, je peux me défendre partout. Et même dans mon entourage, je suis utile. Souvent, il y a des amis, des potes qui viennent me demander, il y a un problème, machin. Donc du coup, j'ai conseil, je donne des conseils.
Vous jouez un rôle de grand frère que vous n'avez pas trouvé, vous, quand vous étiez adolescent, c'est ça?
Exactement.
Mais j'ai l'impression que vous vous êtes un peu bâti une réputation là. Hein.
Comment, pardon?
Vous vous êtes un peu bâti une réputation de...
Exactement.
C'est ça, de champion d'épanouissement sexuel, c'est ça?
Exactement, parce que je me suis beaucoup donné à la sexualité, et puis même sur les télé-émissions, j'étais mis accepté à l'émission Alexandre et bien les sexes positifs, je me suis juste sur télé, et puis voilà, l'émission, je fais bien. Okay.
Eh ben merci à vous Abdoulaye en tout cas d'avoir partagé ce témoignage en toute simplicité. Merci. On vous souhaite une très bonne journée à Tombouctou. Franck est en ligne aussi avec nous au Cameroun. Vous avez le même âge, hein, Franck, 27 ans.
Oui, exactement, Emmanuel. Oui. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous pensez du témoignage d'Abdoulaye?
Alors, ça rejoint un peu le mien en fait parce que. Voilà, tout comme Abdoulaye, avec les lacunes qu'on avait au niveau de l'éducation sexuelle, disons qu'on est allé sur Internet pour se rassurer, pour avoir d'amples informations, parce que déjà à la maison, c'est un sujet tabou, nous aussi à l'école, donc les informations qu'on nous donne ne nous satisfont pas, quoi, en fait.
Et qu'est-ce que vous cherchiez sur Internet, par exemple?
Bon, voilà, sur Internet, on cherche un peu de tout, c'est dit que, par exemple, quel est l'âge idéal pour avoir une... sexuelle, ou alors on se dit voilà, si on est couché pendant son sommeil et qu'on a une éjaculation, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'on fait? On a des poils pubiques, est-ce qu'il faut les raser? Donc, plusieurs choses comme ça, on allait sur Internet, vraiment c'était une formation personnelle. Alors, on n'avait pas toujours le courage d'en parler aux parents ou même aux amis parce qu'on avait peur du regard, de ce qu'ils devaient dire. Et on se retrouvait sur Internet aussi.
Est-ce qu'encore aujourd'hui, à 27 ans, vous êtes encore considéré comme un jeune? Est-ce que vous avez besoin d'Internet pour vous rassurer sur votre sexualité, pour répondre à des questions, pas que d'ailleurs d'aspect santé, hein?
Oui, déjà, bien sûr. Internet, c'est vrai, on a le souci que parfois... il y a beaucoup d'informations sur Internet et on a du mal à faire le tri de ce qui est bon ou pas. Et déjà, bon, peut-être moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup la culture de me faire consulter, de rencontrer, par exemple, un gynécologue. Donc, très souvent, je parle sur Internet. Même à mon âge, bien sûr, oui, oui. Mmh.
Et est-ce que sur Internet, vous parlez avec d'autres jeunes, Franck, de ces questions-là?
Du coup, surtout parce que c'est assez anonyme, donc du coup, tu es un peu plus libre de t'exprimer, tu dis ce que tu penses, et voilà, tu écoutes un peu les avis des autres. Mmh.
Merci en tout cas de nous avoir appelés. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Moi j'ai l'impression, Thomas Romer et Yael Mselemengi, que quand on va sur Internet pour se renseigner sur la sexualité, on consulte plein de choses très différentes et que la pornographie arrive au milieu de tout ça, Thomas Romer.
Oui, alors il faut aussi prendre en considération que l'offre éclectique d'informations qui existe maintenant, que ce soit sur les réseaux sociaux que j'ai évoqués tout à l'heure ou ailleurs, c'est quelque chose d'assez récent. C'est pas non plus quelque chose qui existe depuis 15 ans. Il faut pas oublier aussi que la plupart des plateformes que tous les internautes utilisent sont des plateformes américaines et que sur les plateformes américaines, le sujet de la sexualité est très compliqué à aborder et qu'il y a beaucoup aussi d'informations qui est souvent censurées. Après, je partage votre avis néanmoins dans ces deux témoignages très honnêtes et il faut les remercier tout à fait en transparence. On voit quand même, par exemple, Franck a évoqué la question « Est-ce que c'est normal d'avoir du poil au pubis ?» C'est une question qui est directement issue du porno.
Et de la pub.
Oui, et de la pub.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous faites allusion aux acteurs du porno qui sont, pour une bonne partie d'entre eux, rasés.
Oui, qui sont rasés, hommes comme femmes, et dans une logique cinématographique. N'oublions pas que la pornographie est un genre cinématographique et que l'objectif, c'est de...
Ce qui veut dire que quand des jeunes regardent du porno, ils se demandent finalement si c'est normal, s'ils sont normaux d'avoir des poils au pubis.
En tout cas, c'est une question qui est très récurrente, nous, quand on intervient notamment avec Ovidie dans des établissements scolaires, c'est une question qui est... La place du poil est éminemment présente, même si je rejoins Yael, il y a aussi derrière des publicités qui sont tout à fait...
Mais en fait, la disparition des poils, elle ne date pas de la pornographie. Enfin, la pornographie, elle a suivi toute la publicité, le cinéma, qui a d'abord enlevé tous les poils. C'est-à-dire que si on prend les magazines de sous-vêtements des années 80, il y avait des poils sous les culottes qu'on pouvait deviner pour vendre des culottes. Aujourd'hui, il n'y a plus jamais un poil dans les magazines ou sur les pages internet de vente de sous-vêtements. Et c'est exactement pareil dans la pornographie. Dans les contenus des années 80, il y avait des poils, il n'y a plus de poils. Et donc, en fait, cette disparition du poil... intime ou du corps, elle est massive et du coup vient interroger les adolescents quand ça commence à pousser de est-ce qu'il faut tout supprimer.
Elle est massive, mais j'ai une analyse un petit peu relative par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que je pense aussi que la publicité, on parle de culture porn maintenant, la publicité s'inspire énormément de la pornographie
et
le système des... Oui, bien sûr, et les vases communicants fonctionnent dans les deux sens.
Comment vous constatez quand vous allez à la rencontre des jeunes je sais que vous menez différentes expériences dans des classes, dans des établissements scolaires.
En tout cas, les deux témoignages sont parfaitement là pour illustrer exactement ce que nous vivons aussi en France. Les jeunes, ils ont besoin qu'on leur recrée des espaces de parole sur ce sujet.
Et ça, ils ont toujours eu besoin. Et il y a toujours eu ces questionnements sur...
Mais oui, ils sont légitimes. Je rappelle juste qu'être ado, c'est un volcan hormonal sur pattes.
Non, mais la question, c'est est-ce que le porno, qui est quand même omniprésent sur Internet dans la sphère sexuelle, est-ce que ça a une incidence sur le questionnement des jeunes, voire sur les pratiques, sur la façon de se projeter dans sa sexualité?
Je pense que les témoignages viennent de nous montrer également. Abdoulaye était quand même à utiliser des mots comme s'améliorer. On est dans une logique de performance qui est aussi très prégnante dans la pornographie et qui fait partie de cette culture cinématographique. Je suis pas là pour dire que c'est mal, c'est pas le sujet. C'est juste que forcément, quand on a que cette seule source d'information, on finit par croire que on doit se comporter aussi comme ça.
En même temps, entendre un jeune garçon en Afrique subsaharienne, dans le nord du Mali, se préoccuper du plaisir de sa partenaire, on peut aussi dire c'est un héritage positif de l'internet. Hein.
Bien sûr, mais à la condition que on en parlait. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui me semble semble essentiel, qui est le mot consentement. Après ça, si vous voulez, l'idée, c'est pas de moraliser les choses. Chacun fait ce qu'il veut. À partir du moment où il y a du consentement et que ça se passe bien et que tout le monde est heureux, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde.
Vous disiez, pendant qu'on diffusait la chanson tout à l'heure, vous continuez la discussion avec Yaël, Thomas Romer, vous disiez, mais moi, le porno pour les adolescents, c'est pas ça le problème à l'heure actuelle.
Non,
alors c'est quoi
pas.
Alors finalement?
Non, le porno, enfin, on a précisé avec Yaël et on était d'accord, le porno n'est pas le problème pour les ados à condition qu'il soit recherché. C'est quand même pas la même chose. Moi, je fais partie d'une génération en France qui a été enregistrée la cassette porno dans le dos de papa et maman quand le film passait sur Canal. On se donnait tellement de mal pour l'enregistrer qu'une fois qu'on avait le Graal entre les mains, on n'avait même plus envie de le regarder. On avait franchi la ligne jaune et ça faisait partie un petit... Le souci aujourd'hui, c'est la facilité d'accès de ces sites avec beaucoup de gouvernements internationaux qui sont contre-fiches et du coup, ce libre accès ne met plus une espèce de cadre attention, là on bascule dans un autre univers, ça devient, et du coup ça se transforme en norme, et c'est ça le souci, le vrai problème, il est face à un manque de connaissances, les images qu'on reçoit peuvent apparaître comme étant une norme et donc influencer. Après ça, je ne dis pas que tout le monde le fait et je ne le pense pas.
Et votre enquête, Yaël M'Salem Mingui, qu'est-ce qu'elle révèle finalement sur les usages sur Internet et la réalité de la vie sexuelle des jeunes?
Elle montre justement, enfin moi, pour moi, qui est vraiment très important, c'est que sexualité à Internet ne rime pas uniquement avec pornographie, que la question de la relation, elle est au cœur des usages. Et comme le montrent bien les témoignages de Abdoulaye, de Franck, ou encore derrière de Junior qui disait « je veux savoir comment fonctionne mon corps », il y a aussi tous les enjeux pour soi et pour l'autre, et pour les autres avec qui on va partager des moments de sa vie. Il y a la question relationnelle qui est très forte et qui revient beaucoup. Et puis, dans cette enquête aussi, ce qu'on voit bien, c'est la construction sociale de la féminité, de la masculinité, qui s'exprime aussi dans les usages d'Internet. Et donc, c'est là où on va voir, effectivement, que la question de la performance, elle se pose beaucoup chez les garçons. Mais pourquoi? Parce qu'on considère toujours, et ça de manière, on va dire, dans beaucoup de pays, ces garçons ont des besoins sexuels, que ces garçons sont performants parce que ça va avec leur masculinité et leur virilité. Et que la question de la performance ne se pose pas du tout dans les mêmes termes et avec les mêmes mots et avec les mêmes enjeux pour les femmes. Or, il faut bien le dire, les femmes aussi ont le droit d'avoir des besoins sexuels et les dire. Elles ont des besoins sexuels, elles ont des envies, mais pour l'instant, elles ont peu d'espace de parole pour pouvoir les dire. Ce qui est intéressant aussi dans cette enquête, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure des âges où on avance dans l'adolescence, il va y avoir un affinement des recherches où les jeunes vont petit à petit mieux cibler leurs questions, mieux arrêter de, on va dire, partir de la première occurrence de ce que propose le premier moteur de recherche, mais aller plus finement dans ce qu'ils vont rechercher, et donc découvrir qu'il n'y a pas la pornographie, mais qu'il y a des contenus pornographiques, qu'il n'y a pas qu'un contenu sur Internet, mais qu'il y a une diversité qui va s'adapter.
Mais
s'adapter aussi en fonction
mais par
de ces pratiques culturelles.
À la réalité de leur vie, parce qu'on a des faits divers qui ont été très médiatisés partout dans le monde, de filles qui se prostituent pour pas grand-chose sans être forcément pauvres dans l'établissement scolaire, en reproduisant d'ailleurs ce qu'elles avaient vu sur Internet. Est-ce que ça, c'est du fait divers, c'est quelque chose... Est-ce que, Thomas Romer, vous, quand vous allez sur le terrain, vous avez l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui a changé ces dernières années? Ou est-ce que, finalement, comme Yaël M'Salem Mingui, vous dites, non, les jeunes veulent simplement mieux se connaître et s'informer?
Pour moi, il faut pas tromper les auditeurs, et en cette période où on raconte un peu tout et n'importe quoi, il faut bien préciser. Aujourd'hui, à ma connaissance,
parlez bien devant le
micro,
Thomas,
à ma connaissance, il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent un quelconque impact négatif de la pornographie sur le comportement des jeunes ou des adultes. En revanche, on a le droit de se questionner quand on va sur le terrain, quand on voit et quand on entend certains discours de culture de la performance et certaines pratiques, certaines conduites à risque. En effet, la prostitution des enfants est un drame qui est en train d'exploser en France et qui touche toutes les classes sociales et qui questionne. Alors, certains professionnels font un lien entre la consommation de ces images ou leur facilité d'accès dans certains cas de figure. Il n'y a pas d'études qui le démontrent, donc ce sont juste des observations de terrain, donc il faut rester très prudent sur les liens de cause à effet. Néanmoins, c'est vrai que ce genre de conduite à risque sont nouvelles et ne peuvent que nous interroger, et ça doit ouvrir justement le champ de la recherche et permettre qu'on réfléchisse à tout ça.
Mais juste pour continuer, ce qui est intéressant dans, ce qui est intéressant dans l'enquête quand même, c'est juste de pouvoir montrer comment, en fait, quand on grandit dans un univers égalitaire, dans un monde égalitaire où les femmes et les hommes ont des rôles qui sont identiques, la pornographie, elle est remise en question. Même les images les plus trash, on va dire, ou les rapports les plus inégalitaires dans l'environnement culturel, ils vont être mis en question, ils vont être discutés et en fait, ils vont être critiqués par les jeunes. Quand on vit dans un monde complètement inégalitaire où les rapports entre les hommes et les femmes sont complètement inégalitaires, la pornographie, comme le reste des contenus culturels, vont venir confirmer que c'est bien des rapports inégalitaires qu'il faut maintenir dans la société. Et c'est bien ça, en fait. C'est, en fait, comment réussir à baigner tous dans des normes égalitaires pour permettre de déconstruire et avoir l'esprit critique. Et c'est ça qui montre, que les adolescents montrent bien, en fait, dans
cette enquête. Freiner techniquement l'accès à la pornographie pour les mineurs, c'est pas la solution. Qu'est-ce qu'il faudrait dans ces cas-là pour qu'il y ait, finalement, pour combler un vide
Alors, pour les mineurs, non. Pour les enfants, si. Alors là, ça, je le défendrai toujours. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut, selon moi, se mobiliser, retrouver, réouvrir des espaces de dialogue, qu'ils soient dans l'enceinte de l'école. Moi, j'ai rencontré des infirmières scolaires qui faisaient un boulot formidable, qui faisaient une permanence le midi entre midi et deux, uniquement sur les questions de sexualité, et où filles et garçons pouvaient venir déposer ce qu'ils avaient à dire, ou même filles et garçons séparés, et ça a permis de lever pas mal de sujets très intéressants. C'est que, que la sexualité ne soit pas abordée comme quelque chose de caricatural, et qu'on puisse en parler de manière apaisée, que les adultes aussi qui accompagnent les enfants, que ce soit les parents, les enseignants, etc., ne se sentent pas obligés de le faire. Il faut le faire que si on s'en sent capable. Parce que aussi, sur ce sujet-là, qui est un sujet un petit peu à part, on peut faire aussi beaucoup de dégâts. Ouais. Donc attention. Et en effet, le sujet de l'égalité homme-femme est quelque chose de primordial, primordial.
Il faut en tout cas lire ce que racontent les jeunes. Les jeunes, la sexualité et Internet. C'est votre livre, Yael M. Salem Mingui, publié avec Arthur Veuatou, chez François Bourin. Merci à vous, Thomas Romer, président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. L'émission est à réécouter, évidemment, en podcast. Merci aussi à toute l'équipe. Demain, ça sera, on parlera de la rentrée scolaire en Afrique, tant attendue, pas du tout effective encore dans pas mal de pays. Après des mois sans école, comment se présente la rentrée scolaire dans votre pays? Si vous êtes parent, enseignant ou lycéen, vous avez la parole. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse de niveau des élèves? Comment rattraper aussi le temps perdu? Certains d'entre vous, élèves qui suivaient l'école à la radio, notre émission, pour garder le contact avec l'école, eh bien on aimerait bien avoir de vos nouvelles. Appelez-nous, dites-nous comment vous allez, si vous avez repris ou pas l'école. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Allez, on va se quitter maintenant avec la chanson d'Aloïs Sauvage sur une position universelle, horizontale.
Tête à demi penchée, faisant une moue dubitative, rêve dans le semi-remorque, les fous prennent tous les risques, les fluves de l'arène me fait bouillir, j'ai le cœur au combat même en temps de crise, les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines, j'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâler de vertige, mais ce soir je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus, les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on, à l'horizontale, on pourrait peut-être, à l'horizontale, puis on verra si, à l'horizontale, à l'horizontale.
Légèrement tourné vers ma nuque pour que mes yeux. 7 milliards de voisins, c'est fini.